On est prêt?
Oui, mon lieutenant.
Alors, à l'attaque!
Bonjour tout le monde. Alors, souvenez-vous, le mois dernier, on avait commencé une émission sur la cassation du contrat de la ville de Reims pour les transports. On s'était arrêté à un moment donné sur le côté rentabilité. Et Raphaël terminait en nous parlant du prix des billets, d'abonnement plus précisément, surtout pour les jeunes précaires. Et du coup, on continue ce mois-ci. Et du coup, pour reprendre là où on était, Jérôme, est-ce que là, à l'heure actuelle, si on applique la même méthode de financement, mais que dans le nouveau contrat qu'ils veulent établir, on englobe toutes les nouvelles communes alentour, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut être viable et rentable? Et question plus importante pour moi, est-ce que l'usager va pouvoir se retrouver?
C'est pour ça qu'il est essentiel de rappeler le mode de financement. Je prendrai le versement mobilité. Je rappelle quand même, c'est les entreprises de plus de 12 salariés sur le territoire du Grand Reims qui payent cette taxe-là.
D'accord.
On voit bien où sont installées les entreprises de plus de 12 salariés, sont installées sur Reims Métropole historique, c'est-à-dire sur les 12, bien entendu la commune de Reims et les communes limitrophes sur le périurbain. Donc on voit qu'on va récolter malheureusement très très peu de taxes et de versements mobilité pour financer le transport sur les communes dites rurales, parce que ça touche les entreprises de plus de 12 salariés. Mm-hmm. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand Macron était ministre de l'économie, il a abaissé il a relevé le seuil de la taxe transport. Et avant, c'était les entreprises de plus de 10 salariés qui payaient le versement transport. Et Macron, au ministère de l'économie, a relevé le seuil à 12 salariés. Je prendrai l'exemple sur Grand Reims. Mine de rien, le fait d'avoir relevé, alors historique, hein, sur Reims Métropole, le fait d'avoir relevé le seuil de 10 à 12 salariés pour payer cette taxe-là, il y a eu une perte pour la collectivité de 500 000 euros. Voilà, donc ça a été une perte immédiate. Après, bien entendu, je l'ai dit, le financement, c'est aussi l'impôt. Donc, est-ce qu'on veut aussi alourdir encore l'impôt pour la population? Nous, on dit que non. Voilà. Après, sur le versement mobilité, il y a encore un moyen de jouer, entre guillemets, sur le versement mobilité, qui a un taux de 1,8%. Il pourrait être relevé à 2% maximum, au moins sur la localité rémoise et le bassin des 143 communes. Ce qui permettrait quand même de retrouver 0,2% de taxes supplémentaires. Voilà. Mais bon, ça, c'est une non-volonté aujourd'hui par les élus du Grand Reims, mais au moins, ça existe. Après, bien entendu, vous m'avez entendu, je porte pas trop dans mon cœur la gratuité, parce que moi, je le dis toujours, il n'y a rien qui est gratuit dans le pays. Hein. Et bien entendu, nous, on se bat pour une tarification sociale. Mmh. Voilà, celui qui peut payer, il paye. Celui qui peut pas payer, il faut l'aider. Voilà, c'est la tarification sociale. On la voit comme ça. Après, c'est sûr que c'est pas dans le discours ambiant. Voilà. Mais bon, c'est quand même important de le signaler. Et donc, je reviens à la question, est-ce que c'est rentable? Oui, c'est rentable pour les opérateurs privés. Autrement, ils ne viendraient pas se concurrencer à chaque fois qu'il y a un appel d'offres sur le territoire national ou en Europe ou dans le monde. Donc, on voit bien que ça leur rapporte du cash. Alors certes, c'est pas à des deux chiffres des 10-12% de rentabilité. Hein, on est sur des chiffres très minimes, mais mine de rien, c'est de la garantie or, quoi. C'est surtout ça. On sait que en plus, ce sont souvent des contrats longs, c'est-à-dire entre 6 et 10 ans. Donc entre 6 et 10 ans, voilà, on peut faire beaucoup de mal sur le social pour faire remonter l'argent vers le capital. Et c'est notre crainte aujourd'hui, et ça a été notre crainte hier. Hein, parce que quand j'évoquais en début de réunion, j'allais dire, mais c'est pas une réunion, d'enregistrement là, de l'émission... J'évoquais, bien entendu, cette résiliation-là qui était dite dans un cadre d'intérêt général, parce qu'on est passé à 143 communes. La CGT s'est battue pour que ce contrat soit résilié. Mais sauf sur une autre méthode. Nous, l'intérêt général, on le voyait par rapport au modèle économique. Nous, depuis 2008, on se bat pour que ce contrat soit cassé, et il l'est, mais en prenant en compte l'intérêt général, c'est-à-dire le montage économique qui faisait que dès le début de l'apparition de ce contrat-là, on s'est mis dans des déficits abyssaux. Hein, pour la petite histoire, on a connu des déficits de près de 10 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 50. Voilà, si on avait été dans le secteur industriel, on aurait mis la clé sous la porte. Et donc, pour la petite histoire, vous le savez très bien, et comme tu l'avais dit tout à l'heure, tous les 6 ans, il y avait une revoyure, même sur un contrat à 34 ans. Tout, et ben, en 2014, on a connu une revoyure avec un plan social dans l'entreprise. On a perdu 60 emplois, 50 emplois de conducteurs et autant d'emplois induits en termes de mécaniciens, d'agents de maîtrise. Voilà, on a perdu 60 emplois. Donc, on est revenu... si j'ose dire, à l'équilibre financier dès 2015, mais avec un sacrifice, parce qu'on a enlevé du service aux usagers. On a enlevé 600 000 kilomètres, qui correspondait pratiquement à 8% des kilomètres. Et les kilomètres réalisés, c'est du service public. Voilà. Donc, comme notre service était jeté en pâture sur sur l'autel de réaliser des économies, on a taillé dans le lard, hein, si je peux m'exprimer ainsi. On a dégraissé en termes d'effectifs, mais pas que les effectifs, parce que là, principalement, ce sont des conducteurs. Donc, on a dégraissé le service public. Ouais. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on est revenu à un équilibre financier qui est très fragile. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui dans le cadre d'une intersyndicale. Parce que comme on nous dit qu'on ne veut pas remettre un euro supplémentaire et qu'on veut aller mettre du transport sur les 143 communes, c'est ce que je disais en préambule, on risque de déshabiller Pierre pour habiller Paul, même si on sait qu'il y a des investissements assez lourds de Grand Reims qui vont se réaliser, notamment des BHNS, c'est-à-dire des bus à haut niveau de service. Mais voilà, le problème, c'est si on met des BHNS, des bus à haut niveau de service dans Reims à horizon 2025, c'est pour aussi enlever des lignes qu'on appelle, nous, des lignes armatures. Parce que dans le même souci, on a la majorité du Grand Reims actuel qui veut apaiser le centre-ville en termes de passage de bus. Donc, qui dit moins de passage de bus en ville, dit moins de kilomètres pour les usagers. Et donc, voilà. Donc, nous, on a peur qu'on ait un service moindre demain. Et c'est pour cette raison-là qu'on se battait pour une régie, pour avoir justement un droit de vote dans le conseil d'administration et être, je dirais, dans ce qu'on appelle le débat démocratique. Voilà. On veut, nous, être partie prenante en tant que représentants des salariés, de l'avenir du transport, des salariés et des usagers, bien entendu, parce que, bien entendu, on ne représente pas les usagers, mais en finalité, si notre service public tombe à l'eau, les usagers ne vont pas s'y retrouver.
C'est intéressant ce que tu relèves là, parce que du coup, ça voudrait dire une baisse du service en fait des bus dans le centre-ville, et en même temps, la municipalité a commencé à imposer une zone à faible émission qui met un certain nombre de véhicules en dehors, donc des gens qui devraient normalement se réorienter vers le transport en commun pour justement aller au centre-ville. Donc c'est un non-sens complet aussi au niveau de la municipalité à ce niveau-là et du conseil communautaire.
Oui, pour un petit mot sur la zone à faible émission qui a été mise en place, alors pas uniquement sur Reims, hein, mais c'est un péage pour les pauvres.
Hein. Bah oui, tout à fait.
C'est uniquement ça. Hein. Celui qui n'aura pas la bonne vignette critère, il faudra qu'il laisse sa voiture à la frontière, puis qu'il se débrouille. Et quand je dis se débrouille, il faut qu'il se débrouille. Et c'est comme tu le signalais, il faut lui apporter donc une autre solution du transport collectif, public et à moindre coût. Voilà, mais est-ce qu'on aura ça à l'horizon 2025, puisque la zone à faible émission déjà est mise en route?
Et oui, là, c'est les critères
4.
Bah, oui, 4 et au-dessus, oui, ont été mis dehors 4, depuis 1er septembre 2022.
4, oui. Mais là, on est en zone charnière. C'est vraiment... là, ils ont encore le droit, mais ce sera vraiment complètement interdit à partir du 1er janvier. Oui. Mais bon, c'est une aberration complète. Du coup, avec tous les gros centres commerciaux qui font autour, je pense qu'ils voudraient vider le centre-ville. Ils ne prendraient pas autrement.
Vider le centre-ville des pauvres, hein, de toute manière. Ouais.
C'est déjà le cas.
Ça me rappelle une fois. Enfin, Arnaud Robinet l'a rappelé il y a 3 semaines, je crois, dans l'hebdo du vendredi. Il veut accueillir plus de riches à Reims. Donc, il faut faire de la place. Enfin, désolé, il l'a dit clairement.
Moi, j'aurais une question à poser sur le financement. Tu as parlé donc financement par la taxe mobilité, les impôts et par la tarification aux usagers. Quels impôts ?
Les impôts payés par tout ce qui est impôts qui relèvent du Grand Reims, impôts locaux.
Pris sur les impôts locaux ?
Oui, on
n'en paye plus.
Mais il y a certains qui en payent encore et puis il y a d'autres taxes qui sont prélevées par le Grand Reims. De toute façon, c'est un financement du Grand Reims. C'est totalement un financement du Grand Reims, cette partie-là.
Et ça va rester, ça ?
Autrement, si on enlève déjà une partie de la tarification aux usagers, versement mobilité, le transport, oui, il va être bien mal.
Je sais pas, par exemple, le contrat s'est arrêté, mais le nouveau contrat, il n'est pas signé. Qui va le reprendre ? Qui pourra le reprendre ? Qui va être consulté ? Est-ce que les usagers vont être consultés ? Est-ce que toutes les communes, les X communes vont être consultées ? Est-ce que les employés vont être consultés ? Avec qui ce contrat va-t-il être rédigé ?
C'est toute la bagarre qu'on est en train de lancer, puisqu'on est en grève le 29 septembre prochain. Par rapport, je dirais bien entendu, à la revendication interprofessionnelle, notamment sur le sujet de l'inflation et du pouvoir d'achat. Et nous, on est complètement insérés dans cette journée-là, bien entendu. Mais on n'oublie pas nos revendications internes au niveau de l'entreprise. Et bien entendu, c'est la relance de cet appel d'offres, nous, qui fait qu'on va être principalement en grève. Il y a une colère aujourd'hui légitime, puisqu'on a appris récemment que... Nous, on souhaitait anticiper, c'est-à-dire s'immiscer pas dans la rédaction en tant que telle du cahier des charges, mais de préserver les intérêts sociaux et économiques des salariés, parce que ça, c'est réalisable. On l'avait déjà réalisé sous la présidence de M. Schneiter. À l'époque, nos accords d'entreprise étaient repris dans le cahier des charges. Et donc, il y a quand même une survie économique et sociale pour les salariés. Et malheureusement, là, on a appris avant-hier que dans le cahier des charges, on sera exclusivement dans un cadre légal de renégociation de tous nos accords d'entreprise, usages et acquis sociaux avec notre nouvel employeur et sur une durée limitée. Donc on voit bien qu'on a une épée de Damoclès qui va nous tomber dessus au 1er janvier 2024, puisque le nouveau contrat entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Donc forcément, le 2 janvier 2024, on sera au combat pour préserver nos acquis sociaux, qui sont loin d'être des privilèges. Hein, parce que les privilèges, moi, ça concerne surtout ceux qui ne travaillent pas. Hein, c'est pas les chômeurs, je veux parler.
Les rentiers.
Hein, les rentiers, le capital, c'est surtout ceux-là, oui. Et ceux-là, on n'y touche jamais. Donc on voit bien que là, on a un risque énorme pour les salariés, de ne pas s'y retrouver socialement. Et puis, ça prouve qu'on n'a quand même pas été entendu. On pensait quand même qu'on allait être entendu sur cette question-là de reprise des salariés avec leurs accords d'entreprise. Et on a été très, très surpris avant-hier d'apprendre qu'on va être vendu au plus offrant. C'est le règne du dumping social. On va combattre comme on l'a toujours fait avec les salariés.
Et quand on voit par exemple l'étendue des nouvelles communes, on avait parlé avec Raphaël lorsqu'on s'est rencontrés pour préparer l'émission. On avait parlé de transport à la demande. Mais est-ce que ça va pas être une façon de sous-traiter les transports dans des parties qui seraient moins desservies, enfin qui seraient plus éloignées de Reims, et donc ça va être encore une étape de plus pour délabrer le service en fait.
À délabrer le service, certainement. Après, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dumping social. Là, on est sur un appel d'offres qui est nouveau pour nous, salariés des transports urbains à Reims. Là, c'est vraiment un nouvel enjeu qui est mis sur la table, puisqu'on va desservir, on devrait se desservir 143 communes avec des modes de transport totalement différents que lorsqu'on connaît, nous, c'est-à-dire le bus, le tramway. Bien entendu, tu as nommé le transport à la demande, qui est une véritable gabegie financière, parce que c'est du taxi qui est réalisé, et on le voit bien d'ailleurs, c'est réalisé là, sous forme d'expérimentation sur le Tardenois, Pont-Favergé et Fismes. On voit bien, même à un moment donné, il était gratuit, il n'y avait personne dedans. Donc on voit bien que ce qui est là, c'est on est sur un financement 100% public et qui correspond pas à un besoin de déplacement de la population. Et le transport à la demande, on va être, ça sera couvert à 100% d'ailleurs, ça sera couvert par une convention collective, nous qu'on appelle la convention collective interurbaine, qui est à Rod et Pâquerettes. Et si vous entendez en ce moment sur à longueur de médias qu'il y a une pénurie de chauffeurs de car, de chauffeurs scolaires, c'est parce que vous avez des conducteurs de car qui sont des fois souvent rémunérés en dessous du SMIC. Je le dis bien, parce que ça, des fois, il y en a qui tombent sur la tête. En dessous du SMIC, puisqu'on a à peu près 40% des salariés de ce secteur-là qu'on appelle, qui sont en contrat périscolaire, des CPS. Et ce sont des salariés qui gagnent 700 à 800 euros par mois et qui font le transport de nos enfants. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart des collectivités pleurent des larmes de crocodile parce que leurs enfants ne peuvent pas être transportés. Et ce sont des salariés qui gagnent 800 balles par mois, je viens de le dire, à peine, souvent, c'est même à peine, c'est souvent de l'emploi féminin.
Avec des amplitudes horaires énormes.
Des conditions de travail totalement dégradées parce qu'ils travaillent une heure le matin, une heure en fin de matinée, une heure en début d'après-midi et une heure en fin d'après-midi. C'est des amplitudes de 12 à 14 heures et on y travaille, allez, 4-5 heures par jour, mais ils sont pris sur toute la journée. Donc ça, c'est la réalité de ces salariés-là, principalement des conducteurs. Donc on voit bien... alors, c'était le monde parfait encore hier, avant le Covid. On a toute une frange de cette population-là de conducteurs qui s'est rendu compte qu'ils étaient archi-exploités. Ils ont fait un bras d'honneur. Hein. Ils sont partis ailleurs. Ils se sont dit, plus jamais on viendra retravailler avec nos permis pour 700 euros. Mmh. Ou souvent le SMIC, quand ils étaient à temps complet. Donc, vous connaissez la hauteur du SMIC tout autant de bien que moi. Donc voilà, on des conditions de travail totalement pourries. En plus, ce sont des entreprises qui n'ont pas de vécu historique en termes de relations sociales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations syndicales, puisque vous avez un turnover des salariés dans ces entreprises-là qui est très, très majoritaire. Donc pour asseoir une organisation syndicale dans ces entreprises-là, et je sais de quoi je parle, ben on n'y arrive pas. Parce qu'aussitôt qu'on assit un syndicat, on met un délégué syndical, on va aux élections professionnelles. La première chose qu'ont envie ces salariés-là, y compris des représentants syndicaux, c'est de s'en aller au plus vite de leur entreprise. Donc, pour asseoir un syndicat qui construit une relation sociale de long terme avec des accords d'entreprise, c'est tout juste impossible. Et c'est là que le transport urbain est totalement mis en concurrence, parce que nous, on a une convention collective qui est propre au transport urbain, avec un socle social qui est entre 30 et 40% plus socialement performant que la convention collective interurbaine. Et nos entreprises sont historiquement installées sur le territoire avec des organisations syndicales, je dirais, qui sont là depuis des années. Hein, comme quand j'ai évoqué mon com, ça fait pratiquement 30 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai jamais eu envie de quitter mon entreprise. Donc on voit bien que socialement, économiquement, on a un attrait certain à rester dans nos entreprises. Donc bien entendu, qu'on est représentant des salariés, on essaye de tout faire pour faire évoluer socialement le contrat de travail, le statut social des salariés. Et voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans nos entreprises de transport urbain, il y a un très faible taux de turnover. On est à peine à 2% de turnover dans nos entreprises. Donc voilà, et quand on prend la convention collective interurbaine, les chauffeurs de car ou scolaires, ils sont à un turnover pratiquement à 90%. Donc voilà, c'est là aussi où on va être mis en concurrence dans cette nouvelle délégation de services publics avec ce qu'on appelle les transports à la demande, le scolaire, les interurbains, parce que on peut avoir aussi des lignes interurbaines. Et là, c'est le grand flou, puisque malheureusement, on n'aura pas accès au cahier des charges. Et c'est là, voilà. Mais ce qui est essentiel de retenir, c'est le mode de gestion. C'est ce pourquoi on s'est battu pendant un an. Parce que d'avoir des représentants, des salariés qui sont avec des vraies voix délibératives au sein d'un conseil d'administration, professionnellement, ils savent de quoi ils parlent. Et aujourd'hui, de relancer une délégation de service public, ça nous interdit de discuter avec les bonnes personnes.
Ouais.
Voilà.
Et alors du coup, je ne sais pas si on avait répondu à la question, mais tout à l'heure, qui est invité à discuter pour est-ce que les communes concernées ont été ou seront consultées?
Oui, oui, oui. Le problème, c'est qu'ils sont, les communes sont consultées par le biais de leur maire qui siège au conseil communautaire, j'ose le dire. Moi, c'est ce que je vous ai expliqué. J'habite un village à 20 km de Reims. Mon maire, il n'est jamais venu me consulter pour voir ce qu'il allait voter.
Oui,
donc,
oui.
Voilà, c'est de la délégation de pouvoir. Mais bon, c'est un peu notre démocratie qui fonctionne comme ça. Mais sur un sujet aussi sensible qu'est le transport public, moi, j'aurais souhaité avoir de l'information dans ma boîte aux lettres, voilà, parce que je suis salarié des transports, mais je peux être aussi usager.
Non, bien sûr. Et vas-y. Et
alors, du coup, au niveau de la consultation des usagers, je peux vous en parler un peu plus, parce que j'ai été sélectionné, enfin, mon foyer, donc ma compagnie et moi, on a été sélectionné il y a un an maintenant, quasiment, pour répondre à une enquête dirigée par le Grand Reims, justement, sur les transports urbains. Je ne sais plus combien de foyers ont été consultés, mais c'est quelque chose dont on n'avait pas entendu parler avant, à part à partir du moment où on a été consulté. Il n'y a pas forcément eu de communication là-dessus du Grand Reims. Et je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'au moment de répondre à l'enquête, la personne qui nous a fait donc répondre aux questions, donc ça, c'était des questions sur nos habitudes de transport. Donc est-ce qu'on prend les transports en commun, est-ce qu'on prend la voiture, comment on prend les transports en commun, comment on prend la voiture, la fréquence, etc. Et à la fin, donc, il y avait des grandes questions. Comment vous voyez les transports urbains sur le Grand Reims, dans Reims même? Et nous, de toute manière, on a répondu qu'on souhaitait une baisse des tarifs pour les plus jeunes, une augmentation de services, la gratuité des parkings relais, enfin tout ce qui pourrait aider à prendre les transports en commun et à avoir un meilleur service. Et ils nous ont dit, enfin la personne qui nous a répondu nous a dit, ah bah de toute manière la plupart des gens que j'ai interrogés avaient les mêmes revendications que vous. Et après la consultation, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, est-ce que les résultats qui ont été reçus par Madame Vautrin et par les équipes du Grand Reims qui avaient commandé ce questionnaire n'étaient pas à leur avantage? Je pense que c'est le cas. Parce que du coup, on n'a pas eu le retour sur les résultats. Donc, il y a eu une consultation qui a été faite. Je ne sais pas sur quels critères, mais en tout cas, moi, j'avais été sélectionné. Donc après, est-ce que ces revendications vont être prises en compte dans la nouvelle négociation du contrat? J'en doute fort.
C'est des consultations.
C'est des consultations.
Ouais, voilà. Savoir ce qu'on a envie, mais après, ils font ce qu'ils ont envie, eux. Donc,
Je pense que nos revendications à nous, aux personnes qui ont été consultées, justement, sont un peu contradictoires avec ce qui va être décidé.
Ouais. C'est comme souvent.
C'est souvent le cas.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the ring of the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river,
danger zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out.
Clash, bah, oui, un beau petit clash en effet. Tout à l'heure, tu parlais de bus à haut niveau de service. Pour avoir, alors, tu pourrais expliquer ce que ça veut dire concrètement, mais moi j'ai connu les bus à haut niveau de service en région parisienne. Je trouvais que ça avait un sens sur des trajets qui reliaient une partie de la banlieue ouest à la banlieue sud. Tu avais vraiment des longues distances et que je trouvais que ça avait un intérêt. Autant dans Reims, j'ai du mal à... Est-ce que pour toi, ça a un intérêt si... Lequel, en fait, où on pourrait-on mettre un bus au niveau de service à Reims ?
On a prévu pour venir à Tinqueux.
Oui, ben, je crois que celui-là, il ne verra pas le jour.
Oh, mince.
Oui, déjà, pour revenir sur l'origine du bus à haut niveau de service, on va rendre à César ce qu'est à César. C'est les premiers bus à haut niveau de service qui ont été mis en place, c'était sur le réseau de la ville de Nantes. Et c'était la CGT des transports urbains de Nantes qui était à l'origine d'une telle création. Et en fin de compte, il s'agit ni plus ni moins de bus sur des zones totalement protégées. Et on peut avoir... Après, ça s'est amélioré vis-à-vis du service, puisque est venu après se greffer, vous savez, les conducteurs de bus vendent des titres de transport. Et aujourd'hui, les bus à haut niveau de service, le conducteur, il est en site protégé, normalement de A jusqu'à Z, jusqu'au point A, jusqu'au point Z. Et il ne vend pas de titres de transport. Ces titres de transport-là sont vendus sur les quais, ce qu'on appelle sur les automates. Et donc, on a des conditions de travail très bien. Franchement, les conditions de travail des conducteurs qui sont sur des lignes BHNS, de ne pas être confrontés, surtout aujourd'hui, avec des vélos, des trottinettes et des usagers de la route, puisqu'on est en site protégé, on a des conditions de travail optimum. Donc voilà, c'est un BHNS, c'est ça. Et donc dans Reims, pour la petite histoire, en 2007, que la CGT avait combattu le projet tramway, parce que nous, on avait dit la ville de Reims sera incapable de financer un mode de transport aussi lourd. Malheureusement, l'avenir nous a donné raison. Hein, on a connu des déficits. Et le tramway, malheureusement, n'a pas un gage de souplesse. Parce que quand vous installez des rails dans une ville... Bah, vous pouvez pas déménager les rails, voilà. Donc le tramway, bah, il va rester là pendant des décennies, tandis qu'un bus à haut niveau de service, il a cette attractivité là en termes d'exploitation, c'est que vous pouvez l'emmener où vous voulez. C'est-à-dire, bah, si demain il y a une zone qui se crée à droite ou à gauche, eh ben il suffit de dévier par du goudron une voie réservée et le bus peut y aller, tandis que le tramway forcément n'ira pas. Donc voilà, et c'est un moindre coût en termes de mode louant. C'est beaucoup moins cher, parce qu'on est aussi sur le financement et très respectueux de la dépense de l'argent public. Et d'ailleurs, c'était pour cette raison-là qu'on était vraiment opposé au tramway. Parce qu'aujourd'hui, le tramway aurait pu être remplacé au démarrage. Nous, c'est ce qu'on dit, c'est monter crescendo dans l'offre. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une offre de bus qui commence à être saturée, on met du BHNS, du bus à haut niveau de service. Et après, si le bus à haut niveau de service est saturé, on met du tramway. Et là, on a oublié le bus à haut niveau de service en 2011. Donc voilà, et donc on a voulu faire... d'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus vendu comme une vitrine, le tramway à Reims, qu'autre chose, plutôt qu'un mode de déplacement. Mais sans le dire, ça fonctionne forcément, puisqu'on a enlevé à l'époque les trois lignes les plus fréquentées. Et on a pris le passage de ces trois lignes-là pour faire le tramway. Mais la ville a bougé depuis 2011, on le voit, hein, il y a des nouvelles zones d'habitation. Et malheureusement, le tramway, il est sur des rails.
Mais il y avait déjà des voies spécifiques, d'ailleurs, qui avaient été faites pas longtemps avant l'arrivée du tramway, à Croix-Rouge, hein, pour les bus. Ils passaient le long de l'hippodrome, là, sur une zone où il n'y avait pas du tout de voiture, quoi. Et ça a à peine servi, en fin de compte, parce que ça a été fini et finalement, le tramway est arrivé rapidement après, quoi.
Oui, puis on parle... Oui, tout à fait. Mais c'est pour vos auditeurs, ils vont vite comprendre. Aujourd'hui, le tramway, ce qu'on parle, nous, souvent, c'est de vitesse commerciale. Hein, c'est notre jargon, mais c'est la vitesse de déplacement d'un bus ou d'un tramway ou lorsque l'usager est à l'intérieur. Lorsque vous évoquez les voies réservées qu'on avait à l'époque, les anciens se reconnaîtront, c'était la ligne H. On avait une vitesse commerciale de 23 km/h. Et aujourd'hui, avec le tramway qui emprunte à peu près les mêmes voies, on est sur une vitesse commerciale à 17 km/h. Ouais. Aujourd'hui, on a, pour le dire un petit peu vachement, on a le tramway le moins rapide de France. Et donc, la CGT l'avait dit. Et pourquoi qu'il est le moins rapide? Parce qu'on a inséré le tramway dans une partie de la population automobile, avec des arrêts beaucoup plus fréquents, des vitesses qui sont imposées aux conducteurs, des vitesses limites qui sont imposées aux conducteurs en termes de sécurité, qui fait qu'aujourd'hui, on a le tramway le moins performant de France. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait dénoncé qui s'est mis en place. Et puis pour le coût économique, pour vos auditeurs, aujourd'hui on a 18 rames de tramway sur Reims qui correspondent à une centaine de bus. Et les 18 rames en coût d'exploitation, c'est-à-dire conducteurs compris, hein, énergie et masse salariale, on est sur des coûts à 50%, voilà, à peu près au niveau de l'entreprise. Donc pour 18 tramways, on a la moitié des coûts d'exploitation comparable à une centaine de bus qui peuvent...
Et puis en plus, le tramway, il y a des moments où il est saturé, quoi. On ne peut pas ajouter des rames du fait de son imbrication dans la circulation automobile, parce que c'est horrible, quoi. Il suffit... quand on traverse Reims, moi, Tinqueux, je l'ai au pont de Vel, je l'ai après, je l'ai place de la République, si je vais de l'autre côté, quoi. Vraiment... on ne peut pas rajouter des rames comme ça
Nous, c'était notre demande. Hein. On avait demandé des rames supplémentaires parce qu'aujourd'hui, le tramway est à 6 minutes de fréquence. Je ne vous dis pas les conducteurs qui sont à chaque fois en bout de ligne, le changement de cabine et tout. Ça fait qu'ils disposent très peu de ce qu'on appelle, nous, le repos physiologique. Quand vous avez un tramway qui arrive à son terminus, le conducteur, il doit changer de cabine. Il doit se dégourdir les jambes et puis pouvoir son
petit pipi. Sa cigarette
ou son petit pipi, plutôt ça, souvent, ou un café. Et malheureusement, il faut tout faire ça en moins de 4 minutes. Quoi. Ouais. Et donc, comme vous avez une contrainte d'exploitation, donc je ne vous fais pas un dessin. Quoi. Ouais. Voilà, ils sont partis pour pratiquement 8 heures de conduite. Voilà, c'est ça. Et très tôt le matin... Pendant midi, les tramways circulent et puis ça va jusque tard le soir. Donc c'est vrai que les conditions de travail sur la conduite tramway, et en plus on est dans un vase clos, c'est très compliqué, ouais. Très technique et très compliqué.
Proposer une petite page de musique. Avant, je voudrais vous lire un communiqué du collectif Sauf qui peut. Ça rentre dans notre rubrique coup de gueule. Celle-ci, j'ai pas eu le temps de le faire le mois dernier, donc je la fais maintenant. Donc je vous lis un communiqué qui date du 8 septembre 2022. Quelques jours après l'évacuation du parc Saint-Jean-Perse, le maire de Reims, Arnaud Robinet, s'exprimait en marge de la foire de Chalon et s'il souhaite qu'il y ait encore plus de riches, entre guillemets, c'est là que je l'avais lu. C'est loin d'être le cas des dizaines de personnes qui survivaient depuis des semaines sous des tentes sur le parc Saint-Jean-Perse, une situation qui se produit sans cesse depuis des années. On parlait du tramway, les personnes qui sont habituées à prendre le tramway peuvent voir régulièrement ce parc se remplir et se vider. Ouais. Pire, il les accuse d'avoir commis le crime de venir pour des raisons économiques plutôt que pour des raisons de guerre. Aussi tranche-t-il entre migration légitime et migration illégitime, suggérant que fuir la misère, la maladie, la corruption, les persécutions, etc. révèlent une immigration de convenance. Monsieur le maire affirme ne pas partager l'avis de l'association Sauf qui peut, entre guillemets. Pourtant, tout comme lui, nous ne, entre guillemets, pouvons pas accepter qu'on laisse vivre les gens dans de telles situations. Mais contrairement à lui, nous n'avons pas le droit, ni l'obligation, ni les moyens de leur fournir un hébergement. Alors, comment expliquer ce paradoxe consistant à ne pas accepter une situation et à la laisser persister tout en ayant les moyens d'y mettre fin? Que dire des familles qui ont hébergé quelques jours en hôtel hébergées quelques jours en hôtel avant d'être renvoyées à la rue? Il est vrai qu'Arnaud Robinet, entre guillemets, ne rend pas service aux migrants en les incitant à s'installer à Saint-Jean-de-Perse, puisque c'est bien la municipalité et la préfecture qui portent cette responsabilité en ne leur fournissant aucun hébergement à leur arrivée sur le territoire, si bien qu'ils sont contraintes à s'installer dans des lieux où ils ne risquent pas d'être agressés, où sont déjà présentes d'autres personnes qui se sont éloignées des endroits où ils doivent se rendre fréquemment. Nous nous interrogeons sur la nature des associations purement politiques qui jouent avec le malheur et la détresse des gens, dans la mesure où fournir de la nourriture, des vêtements, inscrire les enfants à l'école, accompagner des personnes dans leurs démarches médicales et administratives font partie des activités du collectif Sauf qui peut, qui n'est pas une association et n'est pas non plus, entre guillemets, purement politique. Nous nous demandons si cela ne s'adresse pas à son équipe municipale et à la préfecture qui, en stigmatisant des populations en grande vulnérabilité, sèment les graines de la division en vue de renforcer leur influence politique. Nous suggérons enfin à l'équipe municipale de consulter les personnes actives sur le parc en question afin d'améliorer sa connaissance de la situation, puisque lorsque M. le maire affirme que beaucoup sont au Dublin, ce qui signifie leur demande d'asile a été enregistrée dans un autre pays, il semble ignorer que cela ne les empêche pas de demander que leur procédure se poursuive en France. Lorsqu'il affirme que beaucoup sont des OQTF, il semble ignorer que ce n'était le cas que d'une toute petite minorité des personnes présentes. Nous sommes également surpris d'entendre que le CCAS de la ville de Reims a une fonction ô combien importante dans le suivi sanitaire et social de ces personnes. Dans la mesure où, si des employés du CADA ou du 15 sont régulièrement présents, aucune personne relevant du CCAS n'a été vue sur le parc pendant toute la période de l'occupation. Nous demandons simplement que dès leur arrivée, toutes les personnes soient hébergées pendant la durée de leur procédure afin qu'elles puissent se dérouler dans les meilleures conditions.
OQTF, obligation de quitter le territoire français.
Merci. Je vous passe full cash d'Evry Gus et on retourne à notre tramway et à nos transports de Reims.
Le Brésilien vit dans un bidonville. Le Roumain demande le droit d'asile. Le petit Pakistanais fabrique des chaussures de sport. Le Polonais est au chômage, l'Afghan vit au Moyen-Âge, l'Algérien est pris en otage, le petit Thaïlandais se fait prendre par des gros porcs. Comment tirer le maximum? Parti des gens, tirer parti de l'homme, pour de l'argent. Full cash, come on, yeah man, full cash, come on.
Le footballeur vend des hamburgers.
Le champion de Formule 1 des voitures du shampoing.
La comédienne, un menu minceur.
Et partout des mannequins parce qu'elle avale bien.
L'ayatollah La mafia remplit son panier d'actions et d'avocats. Les labos pharmaceutiques ne font pas de fric en Afrique. Comment tirer le maximum? Parti des gentils et parti de l'homme. Pour de l'argent, full cash, come on, yeah man. Millionnaire au banco, loto, Star Wars, Morpion, top départ, tapis vert, pu passer nos chasses au trésor solitaire, bingo, goal, loto sportif, rapide autour du monde, Saint-Valentin, blackjack, et tac au tac, et tac au tac, et tac au tac.
Comment tirer?
Qu'est-ce qu'il nous restait à évoquer?
Voilà, il y avait peut-être le sujet, justement, le sujet de l'arrivée sur le réseau de transport urbain des personnes qui habitent en périphérie. Comme on disait, il y a 143 communes qui composent le Grand Reims. Ça fait du monde desservi notamment par toutes les gares SNCF qui parcourent le territoire, donc de Fismes à Fismes, Prunay, Muson, Loivre, c'est tous les bassins de population qui se sont agrandis au fur et à mesure des années et qui aujourd'hui, du coup, sont la question de la rupture du contrat. Comment les desservir? Et Madame Vautrin, elle, partirait plutôt sur une idée de transport à la demande qui ensuite ramènerait vers ces gares-là. Mais encore une fois, c'est loin d'une idée de service public et d'une idée de, comment, de transport en commun. Et comme le disait Jérôme à l'instant, hein, sur Fismes, c'est déjà, il y a déjà du transport à la demande, il y a déjà une gare TER, et ça a absolument pas les résultats qui étaient espérés.
Ouais. On va attendre. Vas-y.
Ouais, on met aussi le doigt dessus quand même, parce que je reviens surtout sur le mode de gestion, parce que là, justement, la délégation de services publics, la collectivité ne sait pas vers quoi va pencher son modèle transport, puisque ce sont les groupes privés qui vont dire, qui vont venir dans leur réponse au cahier des charges avec leurs propres solutions. Donc, bien entendu, ces opérateurs privés-là, ils ont tout dans la besace, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Une plateforme numérique pour organiser le covoiturage, du transport à la demande, des lignes de car express. Mais tout ça, de toute façon, ça a un coût. Et c'est ce que j'évoquais dans le cadre de la délégation de services publics. C'est la négociation entre le futur opérateur ou les opérateurs et le Grand Reims qui feront le prix du futur contrat des transports urbains. Donc la négociation se passera là aussi en termes de transport. Parce qu'installer des cars sur des lignes même express de la ruralité vers le centre-ville, ça a un coût. Du transport à la demande, ça a aussi un coût. Et bien entendu, y compris installer des plateformes digitales, numériques, du covoiturage, installation de parking, ça a aussi un coût. Donc c'est là où nous, représentants des salariés, on est totalement occultés, quoi. Et donc c'est la grande négociation qu'on dit, nous, qui risque d'être perdant-perdant, puisque on voit le grand déplacement qu'il y a de la population se situe vraiment sur le cœur historique de Reims Métropole, hein, c'est-à-dire du bassin rémois. Et donc là, on a des craintes de voir déshabiller notre réseau historique.
Mais en plus, vouloir faire un nouveau contrat sans consulter ni le personnel, ni les potentiels usagers, c'est une aberration complète, parce que pour des gens qui habitent dans une métropole où ils peuvent, eux, se promener soit en tramway ou en bus ou en vélo, en trottinette, où ils n'ont pas du tout les mêmes... ils n'ont pas connaissance des contraintes des gens dans les zones plus rurales, quoi.
Oui, c'est la concurrence des territoires, hein. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein. Pourquoi les salariés habitent de plus en plus loin. Et donc aujourd'hui, on essaye de rapprocher. Alors aujourd'hui, on peut prendre le coût, c'est le coût de l'énergie. Donc voilà, c'est peut-être aussi un moyen de permettre à des personnes en zone rurale de moins dépenser en termes de solutions individuelles, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Voilà, quand on parle de pouvoir d'achat, nous, on s'adresse au patron, nous. Voilà, c'est la question des salaires, ça doit se réaliser là. C'est pas avec des solutions individuelles ou autres ou apportées par des collectivités avec des fonds publics qu'on va permettre aux salariés des zones rurales ou les salariés en général de vivre du fruit de leur travail. Voilà, aujourd'hui, on prend des palliatifs, pour éviter que les salariés revendiquent des augmentations de salaire à leur patron. Voilà, d'ailleurs, c'était le grand oubli dans la crise qu'on a connue sur la crise des Gilets jaunes. Il n'y avait pas beaucoup de revendications salariales en direction du capital. Voilà, je préfère le dire comme ça. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a oublié un petit peu. Et nous, à la CGT, une des premières revendications qu'on a, c'est... Le capital, c'est à lui de nous fournir du travail, et c'est à lui de nous fournir des conditions sociales acceptables de travail, et c'est à lui à nous fournir un salaire conséquent pour qu'on puisse vivre du fruit de notre travail. Et je crois qu'on a oublié un petit peu ça.
Je pense que c'est plutôt le système capitaliste qui fait que la part des revenus de l'ensemble de la production et du capital va majoritairement au capital plutôt que d'aller aux forces productives du travail.
Ça rejoint
actuellement.
Ça rejoint ce que sortait le magazine Marianne hier, qui a présenté ça sous forme de jour de dépassement du capitalisme, comme il y a le jour de dépassement des ressources de la Terre. Mm-hmm. Ils ont expliqué qu'à partir d'hier, justement, les salariés des entreprises du CAC 40 travaillent pour les actionnaires et non plus pour eux, car les revenus, les bénéfices nets qui vont être découlés de ces entreprises à partir du 22 septembre iront directement dans les poches des actionnaires, tandis que du coup, cette richesse produite par les salariés, eux n'en verront pas un centime. Et donc, pareil, ils prenaient l'exemple de chez Bolloré, donc Vivendi. Eux, c'est le 20 janvier, ce genre de dépassement. C'est-à-dire qu'à partir du 20 janvier...
Ouais, je le plaçais tôt, c'est pour voilà, ça que là, tu m'as étonné quand tu m'as dit que c'était hier.
Et alors, hier, pour la moyenne du CAC 40,
oui.
Vivendi, 20 janvier. À partir du 20 janvier, les salariés travaillent pour les actionnaires. Donc, effectivement, il y a aussi on nous parle d'augmentation... impossible d'augmenter les salaires, impossible d'augmenter tout ça, mais quand on voit ce genre de choses, on se dit qu'il y a des sommes astronomiques qui tombent directement dans les poches de ceux qui ne travaillent pas, et encore une fois, pas les chômeurs qui, eux, sont victimes de ce système-là, mais des actionnaires et des rentiers qui se gavent sur le dos des travailleurs partout en France.
Et justement, moi, j'avais lu aussi un article qui disait que ce sont les plus riches qui sont les assistés. Assistés de ceux qui travaillent et non pas ceux qui sont au chômage qui sont assistés.
Mais tu te rappelles pas quand on avait fait une émission la saison dernière sur les fausses, sur les idées fausses, sur la fiscalité,
ouais.
Et l'un de nos humoristes justement avait détourné ça, où quelqu'un parlait des assistés en France et l'autre de répondre, vous parlez des actionnaires.
C'est la même chose.
De toute façon, le gros problème, c'est que depuis des dizaines d'années, tous les gains de productivité qu'il y a eu grâce à la robotisation ou à l'informatisation, au lieu de faciliter que ce gain-là revienne aux employés, il est revenu aux actionnaires directs.
Et la spéculation financière.
Ça me fait penser aussi au président de la Fed, donc la Banque centrale américaine, qui aujourd'hui a dit que la solution pour que les États-Unis sortent de la politique d'inflationniste, ce serait que le chômage augmente. Et donc ça rejoint un principe marxiste qui est la baisse tendancielle des taux de profit, c'est-à-dire que plus les salariés sont en position de domination, moins les capitalistes vont avoir de moyens de pression sur eux, et donc les salariés vont exiger des conditions de travail décentes. Et là, du coup, le système capitaliste arrive à bout à ce moment-là, et donc essaye de nous faire croire que c'est de la faute des salariés d'exiger des conditions de travail décentes et des salaires décents, que l'économie se casse la figure. Or, c'est prendre le problème à l'envers.
Ouais, tout à fait.
C'est ça.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pénurie dans la restauration en termes de salariés, ouais. Ce que j'évoquais tout à l'heure
RATP.
Sur les transports scolaires. Voilà, c'est,
dans tous les
voilà,
secteurs.
Ces salariés-là, on fait un bras d'honneur. Voilà, plus jamais ça. Voilà. Ils ont connu notre vie pendant le Covid. Et voilà,
J'entendais un syndicaliste de SNCF à midi sur France Info qui disait que si aujourd'hui il y a de moins en moins de personnes qui sont présentes dans les sections de recrutement de la SNCF, c'est parce que le statut a disparu, les conditions de travail se détériorent avec des amplitudes horaires, justement, on en revient toujours au même problème, hein, les conditions de travail, c'est quelque chose qui va faire ou pas l'attractivité d'un métier. Et elles ont été détruites depuis des années. Dans tout ce qui est entreprise des transports, et aujourd'hui bah, du coup l'usager du service public paye en perte de fréquentation ses choix politiques.
Ouais, sur l'exemple de la RATP va être totalement privatisée, ce qu'on appelle le réseau de surface, c'est-à-dire tout ce qui est tramway et tout ce qui est bus, et donc là c'est un horizon à 2 ans. Et donc, on voit qu'il y a une pénurie de conducteurs à la RATP, de machinistes, hein, puisque c'est leur terme. Hein. Il y a une pénurie parce que les salariés savent très bien que dans 2 ans, ils vont être privatisés, ils vont être mangés. Et donc, voilà, il y a ça aussi qui est sur la table. Le statut de la RATP va totalement disparaître.
Et on en revient toujours à la même chose derrière. Que ce soit à Reims avec Madame Vautrin ou avec la RATP, en région parisienne, ceux qui sont à la manette et qui, à chaque fois, conduisent ces désastres au niveau du service public, c'est la droite, c'est les Républicains, c'est ceux qui sont du côté du capital et non des travailleurs.
Ça, je me demande où est-ce qu'on va s'arrêter. Bah, en tout cas, nous, notre émission, on ne va pas tarder à l'arrêter. Et je voulais juste... Jérôme, si tu avais une dernière chose à évoquer, toi aussi, Raphaël, sur ce sujet-là, à nos millions d'auditeurs qui nous écoutent. Vas-y, te sens pas intimidé par leur nombre.
Non, je suis pas
intimidé. Si t'as un message à leur faire passer.
C'est un message syndicaliste, hein. C'est que chaque salarié puisse s'organiser dans son entreprise autour d'une organisation syndicale. Autant prendre la CGT, parce que c'est celle que je connais la mieux pour défendre, l'intérêt individuel et collectif des salariés. Voilà, parce que pour la petite histoire, pratiquement toutes les autres organisations syndicales qui existent, malheureusement, c'est dur de parler ainsi, mais c'est plutôt, ils se réunissent tous souvent sous la même bannière d'être anti-CGT avant de porter leur propre étiquette. Donc voilà, c'est un message comme ça, que tous les salariés puissent s'organiser autour d'un syndicat, de monter un syndicat et d'aller revendiquer auprès de leur patron. Voilà, parce que leur patron, c'est pas un copain.
On est d'accord. Raphaël.
Et les travailleurs adhérer à la CGT et les jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des syndicats qui sont dans vos facs, notamment je pense à l'UNEF sur Reims, même si c'est compliqué au niveau syndical d'étudiants, ou alors vous rapprocher des organisations de jeunesse comme les jeunes communistes dont je fais partie, justement pour vous organiser politiquement et socialement sur les territoires. Et essayer de faire changer le rapport de force, que ce soit du coup via la question des transports, mais aussi la question plus large du pouvoir d'achat, du droit au logement, à la santé, qui sont des droits qui sont attaqués de plus en plus par le capital et par le gouvernement qu'on a actuellement.
Merci Raphaël, t'as raison, il faut que la jeunesse qui nous écoute s'investisse un peu, parce que c'est vrai qu'on les voit moins s'investir dans tous les mouvements de contestation, qu'ils soient proches des tiens ou proches d'autres personnes.
Mais aujourd'hui, il y a un ras-le-bol et les jeunes jettent l'éponge, en fait. Ça fait des années et des années qu'on se prend des politiques libérales qui font que détruire les services publics, qui font que détruire le droit à l'enseignement, qui font que les jeunes, du coup, se sentent plus représentés au sein des mouvements politiques et donc se détournent de ces mouvements-là. Et donc, les premiers, du coup, qui s'en servent sont ceux qui sont encore présents, c'est les vieux de droite. C'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui détruisent les services publics, c'est eux qui détruisent les transports à Reims ou partout en France.
Il n'y a pas si vieux que ça, hein, parce que Macron n'est pas... On peut pas le considérer comme vieux, et pourtant, dans le genre « je casse tout », il est pas mal.
Arrêtez de faire de la pub.
Ou alors, c'est peut-être son côté sale gosse.
Moi, je pense que... Au niveau d'attaque, on défend quand même la justice climatique, la justice fiscale et la justice sociale.
Et on fait de l'éducation populaire.
On fait de l'éducation populaire, bien entendu. On n'est pas un parti. Mais aussi, il y a un slogan que j'aime bien. Le service public est la richesse de ceux qui n'ont rien. Et c'est pourquoi il faut absolument le défendre, parce que c'est ça qui fait notre richesse.
Ouais.
Nous n'avons pas l'argent, mais nous avons la richesse. Et cette richesse, nous pourrons la sauvegarder que si nous nous unissons. Et c'est par l'union que nous aurons la force de lutter contre le capitalisme.
À la JC, on a un slogan, c'est « Ils ont les milliards, nous sommes des millions ».
Voilà. Là.
Et ouais. Donc, organisez-vous, partout où vous êtes, rapprochez-vous des organisations, qui soient politiques ou associatives, pour essayer de faire gagner un rapport de force et essayer de garder
un monde plus juste. Surtout, s'informer par ses propres moyens et pas avaler tout cru ce que veulent nous faire avaler les médias mainstream.
Tout à l'heure, l'émission d'avant, tu parlais d'un article dans Le Monde Diplomatique. Lisez Le Monde Diplomatique, lisez les médias alternatifs, Le Canard Enchaîné et les... De toute
François.
Manière, à chaque fois qu'un scandale éclate dans un journal, et tournez-vous vers les autres cas qui ont pu être révélés par ces journaux. C'est toujours intéressant.
Ouais.
Et ben en tout cas, Raphaël, Jérôme, merci d'être venu.
Merci de l'invitation.
Vous revenez quand vous voulez. Si vous avez un sujet à évoquer, nous, on aime bien parler de tout ça. Et du coup, Sylviane, Cécile, la prochaine émission qu'on fera, ça portera normalement, sauf mouvement social, sur la méthanisation. On verra bien.
On verra. Nous serons en novembre.
Ouais. La prochaine, peut-être.
Black Friday.
Alors,
on recommence sur Monsanto.
Le consumérisme.
Alors,
pas Monsanto,
alors,
pardon.
Normalement, vas-y. Alors, la prochaine émission sera probablement sur la méthanisation ou sur le marxisme à l'heure actuelle, ce que j'avais proposé à Fabien Tarit.
Oui, aussi, oui.
Et en fait, l'émission tombe pile pour entre le Black Friday et Noël. Et je me suis dit, il faut parler de ça fin novembre. Merci et puis à toutes.
Je rêvais d'un autre monde. Radio Primitive.
Curieuse et engagée.